Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Une femme au front, mémoire d'une reporter de guerre, un livre de Martine Laroche-Joubert.
Alors Martine, je voulais vous demander, est-ce que la guerre est la plus passionnante des aventures ?
Ouais. Je pense que la guerre, c'est vraiment une aventure passionnante. C'est passionnant parce que c'est intense. Parce que tout est une question de vie ou de mort. Parce que c'est fascinant de voir comment les gens savent passer d'une existence tout à fait normale, bourgeoise même, quelquefois, au chaos total. Ça, c'est très, très intéressant à voir, vraiment.
Je pense que la guerre, c'est vraiment une aventure passionnante.
Quand je ne suis pas sur un terrain de guerre, comme maintenant, j'ai un manque léger. C'est pas un manque fort, c'est un manque avec lequel je peux parfaitement vivre, mais il y a un manque. Et quand j'entends à nouveau les bruits de la guerre, des tirs, des choses comme ça, ça me semble toujours très familier, un son très très familier. J'ai l'impression subitement de revenir dans mon élément.
Est-ce que c'est normal ? Je pense que pour un journaliste, oui, au fond, c'est normal.
Il faut que quelqu'un y soit. Je ne me suis pas tellement posé de questions, d'ailleurs, sur tout ça. Pourquoi j'y vais ? Pourquoi je continue ? Pourquoi ? Je ne me suis pas posé de questions. Je pense que quand il y a une guerre, il faut y aller, quoi. Il faut que ça soit couvert.
Vous ne posez pas de questions ?
Pas tellement. Je me dissous là-dedans, dans les guerres. Moi, Martine Laroche-Joubert, je n'existe plus. C'est dissous, voilà. Et je n'ai qu'un seul objectif, bien regarder, essayer de comprendre. Juste ça, quoi. Mais autrement, moi, mes états d'âme, ce que je pense pas, ce que je ressens pas, pour moi, c'est pas important. Je peux, quelquefois, bon, avoir les larmes aux yeux. Si je vois des mères qui ont perdu leurs enfants, je peux avoir j'ai même pas les larmes aux yeux, j'ai les larmes qui montent aux yeux, mais je les retiens. Parce que si je commence à avoir les larmes qui montent aux yeux, je pourrais plus faire mon travail, c'est pas possible. Voilà. Je retiens tout ça. Je n'ai pas d'importance là-dedans. Mon unique importance, c'est de pouvoir témoigner, rendre compte le mieux possible, c'est tout.
Pourquoi les gens font la guerre ?
Je crois que c'est vraiment inhérent à la nature humaine. Les hommes ont toujours fait la guerre. Mais toujours, toujours, toujours. Je crois que c'est vraiment... Si vous observez les cours de récréation chez les tout-petits, déjà, ils font la guerre. Hein.
Mais ils ne se tuent pas.
Non, enfin, bon, ça fait partie de l'homme, quoi, c'est tout. Ça fait partie. Les hommes, les femmes veulent le pouvoir. Voilà, donc pour avoir ce pouvoir, ils font la guerre. C'est absurde, mais la guerre permet à certaines personnes aussi de se dépasser, peut-être, aussi. Se dépasser elles-mêmes. Il y a peut-être des gens qui font la guerre parce qu'ils ont un besoin d'héroïsme, qu'ils font la guerre parce qu'ils ont une cause à défendre. ça vaut pas le coup, hein, de faire la guerre. Parce que c'est la guerre, c'est quand même c'est sale, quoi. C'est sale, c'est sauvage. Les enfants sont les premières victimes. Voilà. Ça vaut pas le coup. Vraiment, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup.
Et ça va jamais s'arrêter?
Écoutez, c'est tellement inhérent à la nature humaine. Il n'y a pas maintenant les guerres qu'il y a eu au XXe siècle, quand même, hein, la guerre de 14. Je parle des grandes, hein, les guerres mondiales, quoi. Il y a eu deux guerres mondiales, ce qui est quand même énorme. Là, bon, on est en 2019. Il y a des guerres, mais elles sont à la fois, elles sont localisées, mais à la fois, elles ont, comme la théorie des dominos, le battement d'ailes de papillon, tout ça et tout. Ça peut arriver, hein, ça peut surgir très vite. Si on pense à Sarajevo, Sarajevo, ça avait été une ville olympique. Et puis, il y a eu la guerre. Donc, ça peut arriver très vite, sous quelle forme? Il y a d'autres formes de guerre, hein, maintenant. Il y a les cyberguerres. Je pense pas qu'il y aura que des cyberguerres, mais en tout cas, la cyberguerre, c'est encore une autre forme de guerre que personne ne connaissait avant.
Vous avez vu des guerres en Afrique aussi?
Ouais. Là, pour le coup, c'est pas moderne du tout. Il faut avoir de la chance. Il y a des massacres, il y a des poursuites dans la forêt. Il faut faire vraiment attention, c'est très dangereux. Parce que vous arrivez au barrage, tenu par des mômes, souvent drogués. Il faut y aller doucement, essayer de les faire rire, leur donner la caméra pour qu'ils s'amusent. Voilà, ça, pour moi ça a marché. Mais d'autres sont morts, ont été blessés dans ce genre de situation. Il n'y a pas de règles. J'ai connu les débuts de la révolution en Syrie, c'était des jeunes étudiants qui étaient là, complètement pacifiques, des étudiants comme vous, comme moi, qui étaient dans des facs d'anglais, de français, etc. Bon, il y avait des familles, etc. Tous ces gens-là manifestaient très très pacifiquement. Et puis, après la répression du régime syrien, ils ont franchi un cap. Ils ne pouvaient plus rester pacifiques face à la répression violente, il fallait bien qu'ils se défendent. Bon, alors, ils se défendent. Bon, puis après, ils tuent. Voilà, le passage, je suis pas dans leur tête, hein. Mais le passage, voilà, vous vous défendez, puis après, la révolution se militarise, et puis des jeunes de 20, 22 ans, je les voyais dans les rues d'Alep, ils deviennent snipers, voilà, parce que c'est un peu ce que disait mon grand-père, hein. Dans la guerre de 14, il disait, il faut y aller, c'est tuer ou être tué.
Vous arrivez à les comprendre?
Comprendre... Quelquefois, il n'y a pas d'autre choix aussi que de prendre les armes où ils estiment ne pas avoir d'autre choix. Et moi, je me dis, quand je vois la révolution syrienne et ce qu'elle est devenue, etc., est-ce que ça valait le coup? Est-ce que ça valait le coup? Alors, est-ce que ça valait le coup? On ne peut pas le dire maintenant, peut-être. Là, il y a une notion de sacrifice aussi, quelquefois. Donc, est-ce que leur sacrifice a été vain? Non. Au fond, je n'ai pas envie que leur sacrifice ait été vain. Voilà. Il me semble qu'ils avaient une cause à défendre. Est-ce qu'elle valait le coup? C'est incroyable le courage de ces jeunes, quand même, qui sont descendus dans la rue, de ces familles et tout ça. Il faut être sacrément courageux, hein, surtout au début, pour descendre. Et au nom de la liberté d'expression, vraiment, c'était incroyablement courageux. Alors évidemment, ça a mal tourné, etc., etc. Mais ce courage-là, c'est un fait. Moi, j'étais vraiment admirative. J'avais vraiment peur pour eux, quoi, de ce qui allait leur arriver. C'est un courage ici qu'on n'imagine pas, hein. Ils l'ont eu. Alors, voilà, j'ai pas envie que ça soit pour rien.
Prenez forcément un peu parti.
Un peu. Un peu. Si je prends parti, c'est pas aveugle. C'est pas un parti pris comme ça, les yeux fermés. Pas du tout. Non, non, je reste lucide.
Ça vous révolte pas plus que ça?
Bien sûr que tout ça, c'est révoltant. J'espère quelquefois que les images serviront à quelque chose. Que les chefs d'État, etc., prendront conscience de certaines choses en voyant les reportages... J'espère. Ce qui m'inquiète, quand j'y pense, c'est que c'est vrai que le XXe siècle a connu des guerres mondiales, mais que là, j'ai l'impression que la planète s'est tellement rétrécie que vous pouvez être atteint, ou mes petites filles peuvent être atteintes par tout ça. Voilà, elle aurait été au siècle précédent, mais là, c'est plus... voilà, c'est aussi en apparence plus calme, mais il y a tellement de violence en dessous que je ne sais pas. Je ne sais pas du tout comment ça peut se passer.
La fin des guerres. Qu'est-ce que vous pensez de la fin des guerres? Est-ce que ça se termine vraiment?
La fin des guerres. Les fins de guerre, regardez, si on pense à ce qui se passe en Irak. Les Américains sont entrés, ils ont occupé l'Irak. Au début, ça ne s'est pas trop mal passé parce qu'ils avaient débarrassé les Irakiens de Saddam. Bon, et puis après, il y a l'armée américaine, il y a les bavures, les trucs comme ça. Ils ne savent pas comment s'y prendre. Une partie de la population est rejetée, elle veut se venger. Bon, ça continue, ça continue. Apparemment, fin de la guerre. Mais hop, il y a Daesh qui arrive. Voilà. Et puis, c'est la fin de la guerre avec le califat. Bon, il n'y a plus de califat. Les mecs de Daesh, beaucoup sont morts, mais il y en a qui sont éparpillés ailleurs. Bon, ça va reprendre une espèce de pieur comme ça. Il y a des fins, il y a des traités, il y a des fins et tout ça, mais ça ne veut pas dire que ça ne reprend pas sous une autre forme. Et même pas forcément au même endroit. C'est tout un monde souterrain qui est là, qu'on ne voit pas forcément, mais tout un monde souterrain qui va, pof, ressurgir à un moment ou à un autre.
C'est sinistre. Hein. Tout le monde va toujours se battre tout le temps, quoi.
Il y a Michel Serres, j'aime bien cette phrase que je disais l'autre jour, là, il disait « Je crois à un optimisme de combat ». Ça me plaisait assez.
Oui. Mais...
C'est désespérant, mais en même temps, j'ai rencontré comme ça, au cours de tous ces reportages, mais des gens incroyables. Vous rencontrez des gens, mais qui sont complètement inconnus, complètement anonymes, et qui ont des attitudes, mais d'une humanité incroyable. Je pense, par exemple, quand j'étais à Alep, il y avait un asile d'handicapés mentaux sur la ligne de front. Imaginez les handicapés mentaux sur la ligne de front. Une sorte de maison complètement délabrée. Et tous les jours, malgré les risques, il y avait des tirs partout. Il y avait des gens qui venaient s'occuper d'eux, les nourrir, les laver. C'est incroyable de voir des gens qui font ça. Et c'est dingue. Ils auraient pu les abandonner à leur sort. Hein. Vous voyez, c'était une quarantaine de personnes comme ça qui étaient là dans cet asile. Et puis vraiment très gravement atteints. C'est complètement bénévole. Ils n'en tirent aucun bénéfice, aucune gloire. Absolument rien. Rencontrer des gens comme ça qui ont un courage dingue et une humanité incroyable. Alors peut-être que ce sont ces gens-là qui sauveront les planètes. Tout n'est peut-être pas perdu si ces gens-là, et ils sont quand même nombreux, hein, arrivent à faire quelque chose.
Qu'est-ce qu'ils feraient s'il n'y avait pas la guerre, ces gens-là?
Je pense que ces gens qui font ça, ils sont des gens qui ont une telle humanité que dans leur vie quotidienne, en temps normal, ça doit être exactement la même chose. Voilà, mais moins spectaculaire, moins flamboyant. Mais quand je dis spectaculaire, c'est parce que c'est spectaculaire pour moi qui vois ça. Mais pour eux, c'était pas du tout spectaculaire de faire ça. Pas du tout.
Les médecins à Alep, dans des hôpitaux souterrains, parce que les avions du régime larguaient des bombes sur les hôpitaux. Des médecins venaient tous les jours soigner les gens.
C'est toujours fascinant de voir qu'en un clin d'œil, les choses peuvent changer et à quel point les gens s'adaptent vite. En réalité, les gens s'adaptent très, très, très vite. C'est en un clin d'œil.
Vous vous dites... voilà. C'est tout simplement formidable. C'est extraordinaire. Rencontrer des gens comme ça, c'est une leçon.
J'ai rencontré les survivantes de Ravensbrück et ce qui m'avait frappé, c'est qu'elles avaient presque, je sais pas, presque moins 90 ans. Il y avait quelque chose dans leur regard. Je comprenais pourquoi elles s'étaient engagées dans la résistance quand elles avaient 17-18 ans, quoi. C'était un côté rebelle aussi. Et Germaine Tillion, là, quand elle était dans le camp à Ravensbrück, elle a réussi à tellement s'adapter qu'elle avait créé une opérette avec elle, mais d'une opérette plus sarcastique que ça sur elle-même. Plus burlesque, plus où elle se moque de sa féminité perdue, de leur sein qui tombe, enfin tout ça. Et en même temps, il y avait la chambre à gaz qui fonctionnait, d'ailleurs où la mère de Germaine Tillion, elle est passée par la chambre à gaz. C'est, voilà, c'est... quand j'avais fini ce reportage aussi, ça m'avait donné aussi beaucoup de foi en l'humanité, de voir ces femmes. Elles avaient vu les pires choses, elles s'étaient adaptées aux pires choses, et elles en étaient sorties, et elles n'avaient rien perdu de leur énergie et de leur côté rebelle.
Au bout de la guerre, on trouve la foi.
Ouais, ouais.
Ce qui peut vous faire croire en l'humanité, en fait.
Ouais, ouais, ouais.
Il faut aller au fond du trou pour voir.
Quelquefois.
Pour
ouais.
voir de la lumière.
Quelquefois. C'est vrai. Quelquefois, il faut aller au fond du trou pour voir la lumière. Et voilà. Donc.
Ben merci beaucoup, Martine.
Merci.
Je vous fiche la paix.
C'était Une femme au front, mémoire d'une reporter de guerre, un livre de Martine Laroche-Joubert.
Essayez de me rassurer un petit peu.
Je trouve pas qu'on vit dans un monde très rassurant.
Aux éditions du Cherche Midi, un podcast du Poste Général.